France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous, je vous propose de passer aujourd'hui une heure en compagnie du metteur en scène italien Giorgio Strehler. Il était l'invité de Claude Maupomet dans son émission Le Concert Égoïste en octobre 1976. Au cours de cet entretien, dont vous pourrez écouter aujourd'hui la première partie, Giorgio Strehler évoquait sa famille musicienne, son destin manqué de violoncelliste, la musicalité de ses mises en scène et bien sûr Mozart, si cher à son cœur.
Je me sens quand même un musicien manqué.
$2,50 et $2,35.
Voilà.
5 et 5, 10.
Moi, je suis assez malheureux aussi, par exemple, parce que j'ai une oreille absolue. C'est un petit peu étrange, mais je me souviens à la Scala, quelquefois, j'ai répété un jour, il y avait quelqu'un qui faisait du bruit dans un couloir, je ne sais pas, avec une scie, on sciait avec une scie électrique. On faisait une note perçante, persiflante. Là, j'ai dit, mais c'est fini avec cette scie bémol, je ne sais pas comment. Alors, le type est allé au piano, le corrépétiteur, il a fait les scies et il a dit, mon Dieu, mais alors. On m'a respecté en ce moment.
Le concert égoïste de Giorgio Strehler. Comment est-ce qu'on dit ça en italien? Concert égoïste.
Concerto egoista.
Egoista.
Egoista, c'est le même mot.
Giorgio Strehler, metteur en scène. Comment est-ce qu'on dit metteur en scène?
Metteur en scène, on dit regista. 5 et 5, 10, 12, 2 con importo di 1, 8. 9 e 4 13 13 e 13 e 3 16 4 20 0 con l'importo di 2 30 on est 30 avec
le plaisir de la musique en soi, alors ça c'est magnifique
en soi et ensemble,
mais ensemble mm-hmm. avec les autres, mais les théâtres c'est les autres, ce n'est pas l'enfer, les autres ne sont pas l'enfer.
Giorgio Strehler, metteur en scène dramatique et lyrique, et bientôt cinéma.
La Linz, combien vous avez mis de la Linz?
2 minutes. Nous avons coupé la flûte.
Je vais faire un théâtre fixe, disons. L'idéal de mon théâtre, c'était d'être dans une ville avec des gens, vieillir avec ces gens-là. C'est un petit peu utopique, mais ce n'était pas réalisé. Et enfin, cette collectivité humaine, on s'aime, on se marie, on fait des fils ensemble, on s'ébrouille aussi, et puis on se retrouve. Cet idéal, disons, utopique, de chaleur de cette famille théâtrale qui est d'ailleurs, c'est la vieille troupe, enfin, du théâtre. Le mot tendresse revient beaucoup de fois dans mon petit vocabulaire personnel, comme le mot amical, comme... Il y a 4 ou 5 mots qui arrivent, qui m'arrivent souvent, qui font partie de ma vie.
Giorgio Strehler, né dans la musique, n'est-ce pas?
Oui, je crois justement qu'on peut le dire. Moi, je viens d'une famille... qui a quoi faire un petit peu avec le théâtre, parce que mon grand-père, à un certain moment de sa vie, il est devenu le directeur d'un théâtre d'opéra. Mais avant, mon grand-père était un joueur de cornes. Il jouait les cornes.
Corniste.
Les cornes, c'était un corniste. Et il semble-t-il qu'il était un magnifique corniste. Mais d'autre part, ma mère était une violiniste assez connue, je pourrais dire célèbre, si vous voulez, à 7 ans, évidemment. Elle avait un nom d'art, Albertina Ferrari, de l'enfance. J'avais la musique dans la maison. mon grand-père ne jouait plus les cordes, mais ma mère jouait toujours le violon. Et je me souviens très bien que lorsque je m'endormais, lorsque j'étais enfant, eh bien, ce sont les thèmes des choses que peut-être dans ces concertos égoïstes, quelquefois ici, par là, j'ai choisi comme souvenir d'enfance. Et puis, je suis grandi. Enfin, je suis toujours né avec la musique dans la maison.
Et vous-même?
Et moi-même, j'ai eu la triste destinée, on peut dire, parce que je crois que si j'aurais eu la possibilité de choisir dans les temps, quelquefois on ne choisit pas, on est choisi, on se laisse choisir, les choses, les circonstances choisissent, nous choisissons. Et j'aurais choisi la musique, évidemment, et je suis sûr que je n'aurais pas choisi. Je n'aurais pas la capacité d'être peut-être un soliste, c'est-à-dire un homme qui joue le violon, le violoncelle, le clavecin. Personnellement, j'aurais choisi entre ces instruments le violoncelle. Mais je sens que mon amour et mon besoin de collectivité, pas seulement avec les gens qui nous écoutent, mais de la collectivité pendant l'acte, disons, du travail, m'aurait poussé évidemment vers la direction de l'orchestre. Pourquoi ça n'a pas réussi? Ça n'a pas réussi parce que j'avais des musiciens dans la famille qui disaient c'est suffisamment deux malheureux en famille pour en faire un troisième.
Est-ce que vous êtes conscient de l'aspect musical de vos mises en scène? Par exemple, je pense à la Cerisaie qu'on a vue récemment. Est-ce que vous êtes conscient vous-même de la musicalité, par exemple, du voile, le rideau, le voile? C'est vraiment comme un arpège, enfin.
Oui, oui, je crois qu'il y a une musicalité dans ma façon d'être dans le théâtre qui touche le rapport avec le langage, la langue, mais qu'il y a aussi une autre question qui me lie à la musique, c'est le point rythmique, c'est le fait rythmique. Je crois d'être un être humain profondément rythmique. Et évidemment, le fait rythmique et le fait musical unis, tous les deux, font de la musique en général. Lorsqu'on ne fait pas de la musique et on fait du théâtre, ça peut devenir aussi un danger. Alors, je crois évidemment que quand même, les liaisons sont très étroites. Mais entre le langage et la musique, entre les rythmes du mot, entre le rythme du mouvement sur la scène et le rythme de la musique, il y a des liens qui sont très étroits. Alors, la danse qui passe dans les mimes qui passent dans les mouvements normaux, réalistes, une main dans la poche, c'est déjà rythmique ou pas. Enfin, c'est tout très mêlé, tout très lié, n'est-ce pas, ces problèmes. Je trouve que la musicalité, disons, si vous voulez, dans le quotidien, c'est un aspect très important.
Giorgio Strehler, votre concert commence par Bach. Et commence par le concerto pour deux violons et orchestre. Est-ce que vous voulez que nous l'écoutions d'abord, le mouvement que vous avez choisi, qui est le troisième mouvement?
Oui.
Et vous le commentez après, ou est-ce que vous voulez en parler tout de suite?
Non, on peut le commenter après. Je vais simplement dire que ce concerto égoïste, c'est un programme que j'aime beaucoup. Je suis content d'être ici, de parler de musique et de participer à un programme que je trouve qui est intéressant, même, j'espère, pour les spectateurs, pour les auditeurs, mais c'est important pour ceux qui le font. Pour moi-même, je suis contraint de parler et de faire une petite recherche antérieure, si vous voulez. Mais d'autre part, le problème du choix, le problème pourquoi ça, pourquoi une chose ou pas l'autre, le problème de ce qu'on laisse de côté, ce sont des côtés effroyables, c'est le problème de l'île déserte où on doit porter seulement un disque, un livre, qu'est-ce qu'on porte, oh mon Dieu, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Donc, il y a un côté un petit peu méchant, si vous voulez, dans la chose, et évidemment, très borne, très, très limité. Donc, lorsque, par exemple, on choisit Bach, on ne sait pas, on doit faire de 2 heures, 5 heures, ce n'est pas suffisant. Dans la question du concerto pour le violon, peut-être il y a quelque chose qui colle ensemble, c'est le souvenir, disons, la musique étant un souvenir de quelque chose qui est à moi, de l'enfant, si vous voulez, de ma mère, qui jouait volontiers un des violons de ses concertos, et dans le même temps, la beauté absolue, formelle, parfaite.
Bénéfique.
Voilà. Mm. Alors, il y a, en ce moment-là, la chose, le souvenir personnel colle avec, avec l'amour, directement, pour la chose en soi.
Thank you.
troisième mouvement du concerto pour deux violons et orchestre en ré mineur, BWV 1043, de Jean-Sébastien Bach, par Yehudi Menuhin, Christian Ferras et le Festival Chamber Orchestra, dirigé par Yehudi Menuhin, que Giorgio Strehler avait mis en premier dans son concert égoïste. Ensuite, vous avez mis à votre programme un mouvement de la suite, la sixième suite pour violoncelle de Bach. Je pense que là, c'est pour vous tout à fait, parce que si vous aviez été violoncelliste, vous auriez joué ça.
Oh, sûrement.
Avec grand bonheur.
Sûrement, sûrement. C'est bon, je ne sais même pas pourquoi je dis les violoncelles, enfin. Mais quand même, cet instrument qu'on peut faire devenir avec tout son corps soi-même. Alors, le violon a un point d'appui qui est sur le corps humain, qui le prolonge, mais c'est une petite partie. Le violoncelle, c'est l'être humain. Peut-être il y a une symbolisation, si vous voulez, même de l'amour, si vous voulez. Peut-être je vois inconsciemment, ou jusqu'à un certain point inconsciemment, l'art comme un acte d'amour, si vous voulez. Je ne dis pas des possessions en ce cas-là, je dis d'échanges, si vous voulez, d'une espèce de synthèse, si vous voulez, voilà. Alors, mais en tout cas, je crois que avec mon instrument, j'étais un tout uni, quelque chose. Je ne trouve pas de pareil dans les familles des instruments, quelque chose qui devient de plus le corps même de l'homme, comme le violoncelle.
Thank you.
Sarabande de la 6e suite pour violoncelle seule de Bach par Pierre Fournier. Giorgio Strehler, pour vous, cette suite pour violoncelle seule, est-ce que c'est la solitude ou pas?
Il y a un parti de solitude là-dedans, mais c'est une solitude, comme je disais tout à l'heure, d'un homme avec son instrument, ou l'instrument avec son homme, si vous voulez même. Hein? L'homme avec son instrument femme, la femme avec son instrument homme, on ne sait pas bien qu'est-ce que c'est, mais ils sont deux. Qui dialogue avec une voix unitaire, avec l'absolu, avec l'infini. Bach, pensez à Dieu. Moi, je n'ai pas des soupçons métaphysiques de cette façon-là directement, mais on sait qu'on vit au bord de l'infini et du mystère, disons, des choses que nous ne savons pas. C'est enfin un certain sens de solitude, si vous voulez, dans le sens, mais pas dans le sens de l'angoisse, de la solitude de l'homme seul devant les choses.
Non, c'est plutôt la méditation.
C'est la méditation nécessaire, vous comprenez, pour n'être pas seulement superficiellement ou angoissé ou idiotement heureux.
Alors, je vais dire en passant, toutes les œuvres auxquelles je vous aurais contraint de renoncer, ou les horaires, pas moi d'ailleurs. Alors là, nous aurions dû avoir l'air d'alto de la Passion selon saint Matthieu et un mouvement du 6e concerto brandebourgeois et quelques clavecins par Wanda Landowska. Ça, c'est le programme que vous avez souhaité avoir avant de passer à Mozart. Mozart qui est, je crois, celui dont vous ne pouvez pas vous passer, en aucun cas.
Oh non, ça vraiment pas. Je crois que dans les jeux de l'île déserte, dans ces jeux un petit peu de massacre qu'on fait dans les concertos égoïstes, quand même si le choix est très large, parce que c'est assez difficile de trouver une possibilité de faire cette chose-là, eh bien, Mozart prend une place particulière. C'est-à-dire, Mozart peut assouvir peut-être une espèce de nécessité cosmique, si vous voulez, de l'art en soi-même. Il peut, je ne dis pas substituer tout, mais certainement, dans cette île, avec Mozart, peut-être je ne serai pas seul, je ne pourrais bien me passer, je n'ai pas... tranquillement du reste, mais j'aurais
presque tout.
Mozart, selon moi, a une espèce de... C'est une espèce d'exemple de ce que je pense que c'est le don de l'art que nous, interprètes, nous n'avons pas. Donc, lorsqu'on pense que ce que peut être le don, ou la terrible, les marques, ou la terrible de la douleur... On pense, qu'est-ce que c'est, cette chose qui est née avec la cellule, qui naît comme ça et qui n'a pas d'explication absolue dans n'importe quelle psychanalyse, dans n'importe quel domaine de la vie sociale,
c'est
de l'éducation,
le mystère
absolu du monde, de la cellule, je dis germinale, eh bien c'est Mozart, né pour faire ça et rien d'autre ça, pour ne pouvoir rien d'autre faire que ça et le faire dans la façon parfaite. C'est-à-dire avec la tranquillité, avec la sérénité, avec la douleur, avec la joie, avec la facilité. Voilà. Alors, je pense que l'art coûte une fatigue énorme à l'artiste, à le créateur, comme même à les interprètes qui sont des complices, comme dit Brecht. Berti, nous sommes des complices de le dramaturge, dont des musiciens, etc., qui jouent. Des complices très importants, mais des complices. Il y a quelque chose de terriblement fatigant, si vous voulez, et difficile, mais il y a aussi, à un certain moment, une espèce d'énorme facilité. Lorsqu'on est dans la vérité, lorsqu'on comprend quelque chose, on comprend qu'elle était simple, qu'elle était extrêmement claire. C'est nous qui nous voyons très compliqués, parce que nous n'arrivons pas à saisir la chose. Mais au moment où l'interprète, par exemple, saisit une vérité, elle trouve que c'est... Même dans la science, si vous voulez. Dans la science, c'est la même chose. ce principe était enfant. C'était absolument clair. C'est un plus un fait deux. Comment on n'a pas compris cela? Les grands poètes, les grands artistes, les grands musiciens ont toujours cette possibilité de voir la chose primitive, claire, simple, dans la complexité incroyable de l'infini. Voilà, Mozart, c'est bien tout cela et bien d'autres. Parler de Mozart, c'est un petit peu jouer aux bornes de l'indéfinissable, si vous voulez, selon moi.
Mais vous savez, Giorgio Strehler, moi je vous dois le plus beau souvenir de théâtre que j'ai jamais eu. Et c'est apparenté à l'émotion de Mozart, d'ailleurs. C'était la fin de Baruch à Chioggia. C'était tellement beau, c'était tellement complet, c'était tellement, je ne peux pas très bien expliquer, que moi j'ai eu les larmes aux yeux, ce qui n'arrive jamais, pour ainsi dire jamais, d'émotion pure de l'art. Et je pense que... Est-ce que vous pouvez l'expliquer, ça?
Non, non, je ne vais pas l'expliquer. Je m'explique que c'est une finale que j'ai aimée tendrement. Et il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse dans cette finale. Et aussi, la tendresse pour moi, il y a toujours quelque chose de déchirant aussi, il faut que je le dise. La tendresse, elle est joyeuse, mais elle a toujours cette côté d'adieu, si vous voulez, en certain sens. Et alors, il y avait cet adieu qui était aménagé par des lumières, par des gens, par des mouvements, par des choses.
Et par la musique.
Voilà, j'ai venu justement parce qu'il a quelqu'un qui travaille avec moi depuis 20 ans. C'est mon meilleur ami, c'est un musicien. C'est peut-être l'unique vrai grand ami que j'ai, avec lequel on se voit très peu, on parle très peu, on n'a pas besoin, mais qu'il est toujours là, qu'il comprend toujours juste, qu'il a la mesure exacte de ce qu'il est. C'est Fiorenzo Carpi, qui est un musicien qui fait avec moi la musique, et qui d'ailleurs travaille tout seul. Enfin, mais alors, on doit, je crois, à lui aussi, cette émotion que vous avez eue. Il avait écrit de pauvres notes, quatre choses que quatre musiciens sur la scène jouent.
Oui, mais avec la lumière, avec
tous
le mouvement.
Mais c'était ce thème, c'était un thème tendre, déchirant, d'adieu, d'espoir, d'adouleur, de tout. C'était un petit peu de petit Mozart.
J'allais vous dire, c'était une perfection
voilà.
Mozartienne.
C'est un petit peu Mozart, voilà. C'est un tout petit peu.
C'est pour ça que je pensais.
Le petit nièce, au neveu mieux, de Mozart.
Nous écoutons le deuxième mouvement de la symphonie concertante pour violon, alto et orchestre.
Thank you.
Nous écoutions le deuxième mouvement de la symphonie concertante pour violon, alto et orchestre de Mozart, en mi bémol majeur, interprété par Isaac Stern, Pinchas Zukerman et l'English Chamber Orchestra, dirigé par Daniel Barenboim. Giorgio Strehler, vous avez une grande admiration pour Bruno Walter.
Oui, comme interprète, je crois que Walter, c'est un exemple pour moi de ce que ce doit être un interprète. Je crois qu'une des choses qu'un interprète doit faire, surtout à l'égard, mais pas sur toutes les choses qu'il fait, mais surtout sur des choses que presque on n'ose pas ne toucher, c'est de s'approcher avec une espèce de temps d'amour plein d'attention, je dis, d'humilité et de recherche respectueuse de comprendre. Et c'est bien cela que je retrouve presque toujours dans le travail que Walter a fait. Il y a un exemple de répétition que je trouve incroyablement clair. Walter, c'est une voix, on ne le connaît pas, on entend une voix humaine, très simple,
très douce,
très douce, avec un accent anglais, avec un accent allemand, tendrement émigration, tendrement Europe qui se déplace dans le monde, par exemple. Ça, c'est touchant aussi. C'est notre vieille culture qui va, qui circule. Il y a l'histoire derrière. Il y a Hitler derrière. Il y a tout. Il parle et il dit quelque chose. Il chante deux notes et puis un poco ritardando. Et c'est tout. Et qu'est-ce que c'est? Presque rien. Presque rien. Les notes sont toutes là déjà auparavant. Le tempo est juste auparavant. L'orchestre est très bon auparavant. Ce n'est pas une mauvaise orchestre.
And this last part is mezzo forte. So not more. And as a whole, gentlemen, you should be more accompanying. This voice has to come out and we have to follow. You see, don't match it. We just keep a little... And then below that, also we, you know. Yeah. I do it once more. So the first beginning is first and second violins. There you have, go with them, they will match them. For after the first movement, you go down and remain below, they are accompanying. Yeah. All right, I do it once more. And we sing, shimmering. One minute. You see, do you feel? I must hear the third. I must hear the lower. Now full, vibrate, everybody. One minute, yeah, but my friend, don't come in with an accent. Timber, develop the tone. Give me the crescendo bar. I think it is the, you know which it is. Before A, 1, 2, 3, 4. Four before A. Sing out.
C'est comme ça qu'on devait le faire.
Giorgio Strehler, est-ce qu'il y a beaucoup d'analogies entre le travail d'un chef d'orchestre et le travail d'un regista?
Oh, il y a...
Est-ce qu'on dirige les musiciens et les comédiens de la même manière?
Moi, je ne crois pas. Mais la différence profonde entre les directeurs d'orchestre et les metteurs en scène, c'est dans la présence de l'acte, de la communication. Je ne dis pas de la création. La création, c'est Mozart qui l'a fait, non?
Oui,
nous
oui.
avons déjà dit.
Oui,
mais
oui.
de la communication, l'acte d'amour est accompli par les acteurs qui jouent devant un public qui écoute. Alors l'échange, ou ne s'échange rien, quelquefois ça arrive. C'est entre ces deux collectivités, le metteur en scène et derrière la porte, qui regarde des trous de la serrure, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Même s'il a...
Il est l'organisateur
même,
de
même
tout.
S'il a travaillé comme Bruno Walter, disons, si on peut y arriver avec l'orchestre humain, disons, des gens qui jouent le théâtre, qui font le théâtre. Mais la différence vraie, réelle, c'est que le directeur d'orchestre est là, dans le moment où la chose s'est faite, où la musique s'est faite pour les gens, le metteur en scène. En ce moment-là, où il est dans la coulisse, ou, comme je le fais souvent, il est dans la rue, qu'il se promène. En puissant, qu'est-ce qu'il a donné, qu'est-ce qu'il a expliqué, la chaleur qu'il a donnée, ça reste quelque chose dans l'âme de ces comédiens, ça vient... Et il n'est pas là, il ne peut rien faire. S'il est là, il gêne. Moi, j'ai passé des années de ma vie à gêner les gens. J'ai appris lentement à comprendre qu'à ce moment-là, tu vas disparaître, doucement, sereinement, tristement, si tu veux. Et voilà.
Mozart, quintet à cordes en sol mineur, Köchel 516, troisième mouvement, par le quatuor Amadeus et Cécile Aronowitz, deuxième altiste.
Thank you.
Quintette à cordes en sol mineur, Köchel 516 de Mozart, troisième mouvement, par le quatuor Amadeus et Cécile Aronowitz, deuxième alto.
L'histoire de ces quintettes à cordes de 516, c'est un petit peu étrange parce qu'il m'accompagne dans la vie, beaucoup plus que d'autres musiques. C'est-à-dire, il n'y a pas de souvenirs ici, souvenirs enfantins, ma mère, la musique, enfin.
Le travail.
Le travail, quelque chose. Mais en général, je ne lis pas la musique que j'écoute avec mon travail, mais évidemment, il y a une unité. Et je ne mets jamais de la musique comme ça, comme sous fond sonore, lorsque je lis ou lorsque je pense.
Oui.
La musique, je l'écoute sérieusement. Mais il y a des musiques qui m'accompagnent plus que les autres. Les 516, le quintet, il est là, parmi les autres disques, il est là. Il vient toujours dans les mains, il s'impose, il y a une valeur personnelle, et il doit avoir une raison mystérieuse, mais c'est un quintet incroyable. On comprend clairement qu'il y a une espèce de nécessité dramatique, si vous voulez, de dramatisation chez Mozart, qui sortent clairement dans cette forme de quintet. Le premier mouvement, c'est vraiment un grand air d'opéra avec une espèce d'ouverture. Mais c'est fait par cinq instruments, évidemment. Et c'est pour cela aussi, peut-être, que ça me touche personnellement, parce que je suis un homme de théâtre. Et puis, le mouvement en question, c'est de la pureté contemplation de la réalité douloureuse de l'existence humaine, mais quand même de la joie d'exister en même temps.
Ainsi s'achève la première partie du concert égoïste de Giorgio Strehler, une émission de Claude Maupomé, enregistrée en octobre 1976. Nous retrouverons la suite demain. D'ici là, cette archive est bien sûr disponible au podcast ou à la réécoute sur le site francemusique.fr à la page des trésors de France Musique. Merci à Jean-Claude Mullet pour la réalisation, Adelino Mello pour la prise de son, avec la collaboration des documentalistes de l'INA.
À réécouter sur francemusique.fr.